Bonjour à tous. Giorgia Meloni, la première ministre italienne, a prêté serment ce matin avec ses ministres. Le gouvernement le plus à droite et le plus eurosceptique d'Italie depuis la fin de la guerre, l'Union européenne s'est dit prête à coopérer avec le gouvernement de Giorgia Meloni. Nous serons à Rome dans un instant. Le président chinois Xi Jinping réaffirme son contrôle du Parti communiste au dernier jour de son congrès. Le Parti communiste chinois a inscrit dans sa charte le rôle central du camarade Xi Jinping. L'actualité en France, avec l'alerte de plus de 4000 professionnels de la pédiatrie, les services craquent, les soins en pédiatrie se dégradent, mettant les enfants quotidiennement en danger. Invité de ce journal, le professeur Olivier Brissot, patron de la réanimation pédiatrique au CHU de Bordeaux. Du rugby, la France est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde féminine. Victoire 44-0 ce matin face aux Fidji. La météo, temps sec et doux, c'est Linda Costa à la fin de cette édition à 13h20, Secret d'info, au programme aujourd'hui Jacques Monin.
Alors que la fraude sociale revient parfois dans le débat politique, nous verrons qu'à l'inverse, ce sont près de 30% des gens qui pourraient prétendre à des aides qui ne les touchent pas. Et jusqu'ici, toutes les démarches de simplification ont échoué.
Jacques Monin, Secret d'info, après ce journal.
France Inter.
L'actualité ce samedi nous conduit d'abord à l'étranger. Et en Italie, où Giorgia Meloni, la nouvelle première ministre, a prêté serment avec ses ministres. Giorgia Meloni, dirigeante d'extrême droite, a remporté une victoire historique aux législatives le mois dernier. Et elle est donc à la tête du gouvernement le plus à droite et le plus eurosceptique d'Italie depuis l'après-guerre, exactement un siècle après le dictateur fasciste Benito Mussolini, dont elle fut l'une des admiratrices. En direct de Rome, on retrouve notre correspondant Bruce de Galzin. Bonjour Bruce.
Bonjour.
Giorgia Meloni, c'est aussi la première ministre, première femme à ce poste en Italie. Elle souhaite se mettre rapidement au travail et rassurer Bruxelles.
Ah oui, et c'est pour cela que tout est allé très vite, et c'est rare en Italie. La prestation de serment s'est déroulée dans le salon des fêtes du Palais du Quirinal. Grandiose, la cérémonie, elle, était sobre. Hein. Tous sont assis lorsque Giorgia Meloni entre avec le président de la République, Sergio Mattarella. Elle est la première à prêter serment devant lui et devant la Constitution italienne ouverte et imposante posée sur la table.
Je jure d'être fidèle à la République, de respecter loyalement la Constitution et les lois et d'exercer mes fonctions dans l'intérêt exclusif de la nation.
Puis tous les ministres ont ensuite prêté serment devant le président et la présidente du Conseil. Antonio Tajani, très ému, il est vice-premier ministre et va diriger la diplomatie italienne. Lui, le proche de Silvio Berlusconi, dont le premier appel est destiné à son homologue ukrainien, c'est ce qu'il vient de dire, pour confirmer la solidarité de l'Italie. Plusieurs ministres clés sont d'ailleurs des Européens convaincus, comme Tajani, qui a présidé le Parlement européen. Giorgia Meloni a salué de manière appuyée son ministre des Affaires européennes, Raffaele Fitto, vice-président de son parti à Bruxelles et qui va gérer le plan de relance européen. Un autre ministre est essentiel, celui de l'économie et des finances, Giancarlo Giorgetti, un modéré de la Ligue, devenu proche de Mario Draghi. Et d'ailleurs, les premières réactions, à peine la cérémonie était terminée, sont venues de Bruxelles. Charles Michel, puis Ursula von der Leyen félicitent Giorgia Meloni et comptent sur une coopération constructive.
Bruce de Galzin en direct de Rome, et le Premier ministre hongrois Viktor Orban a lui aussi félicité Madame Meloni, étant l'un des seuls dirigeants européens à le faire, saluant un grand jour pour la droite européenne. Partout en Europe, les patriotes arrivent au pouvoir et avec eux, cette Europe des nations que nous appelons de nos voeux s'est réjouie de son côté Marine Le Pen. En Chine, le Parti communiste chinois, au dernier jour de son congrès, a consacré ce matin dans sa charte le rôle central du camarade Xi Jinping, le président chinois, et pour la première fois, le Parti communiste chinois a décidé d'inclure dans sa charte une mention sur l'opposition résolue de Pékin à l'indépendance de Taïwan. En direct de Pékin, on retrouve notre correspondant Sébastien Berriot. Bonjour Sébastien.
Oui, bonjour Frédéric.
Alors, il y a eu également ce matin un incident très inhabituel lors de la cérémonie de clôture du congrès. L'ancien président Hu Jintao a été escorté vers la sortie.
Oui, l'ancien président Hu Jintao, 79 ans, était assis aux côtés de Xi Jinping pendant la cérémonie de clôture. Sur une vidéo filmée par des journalistes présents sur place, on voit deux hommes qui se présentent et qui demandent avec insistance à Hu Jintao de se lever pour quitter l'assemblée. Sur les images, on comprend clairement que l'ancien président résiste et parlemente avec vigueur. Il est finalement contraint de se lever et de partir contre son gré. Les médias officiels n'ont pas relayé cet incident très inhabituel. Alors Hu Jintao Jintao, qui est un homme âgé, a-t-il fait un malaise? Ou bien y avait-il une autre raison plus politique pour expliquer ce départ très mystérieux? Difficile de le dire. En tout cas, l'incident est complètement censuré sur les réseaux sociaux chinois.
Sébastien Berriot, en direct de Pékin, merci. En Ukraine, de nouvelles frappes russes ont visé aujourd'hui des sites énergétiques dans l'ouest du pays, provoquant des coupures de courant dans plusieurs régions. Ces derniers jours, la tension s'est portée sur la région de Kherson, annexée par la Russie au sud de l'Ukraine. La Russie a entrepris d'évacuer les populations civiles et Kiev affirme avoir repris 88 localités. Parallèlement, les Américains estiment nécessaire de garder des canaux de communication ouverts. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour Frédéric.
Et les ministres russes de la Défense, Sergueï Shoigu, américain Lloyd Austin, ont eu un entretien téléphonique.
Oui, le secrétaire américain à la Défense et son homologue russe ne s'étaient pas parlé depuis le 13 mai. La possible utilisation contre l'Ukraine d'armes atomiques tactiques, menace agitée ces dernières semaines par Vladimir Poutine, rendait cette conversation indispensable. Le ministère russe de la Défense dit seulement que l'entretien a porté sur des questions de sécurité internationale dans l'Ukraine. Maintenir des canaux de communication, oui, mais pas question de dialogue politique pour l'instant, dit-on à Washington, car tout dépend de la volonté de Vladimir Poutine d'arrêter la guerre. Or, il n'y a pas de signe allant dans ce sens, explique le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Au contraire, dit-il, on voit dans cette agression la Russie en remettre une couche et une autre couche. Déclaration faite il y a quelques heures en présence de la ministre française des Affaires étrangères venue préparer la visite d'Emmanuel Macron prévue à Washington début décembre. Déplacement où la question ukrainienne jouera naturellement un rôle important.
Bertrand Galichet, merci. Aux États-Unis encore, le président Joe Biden, qui aura 80 ans en novembre, a annoncé qu'il avait l'intention de se présenter pour un nouveau mandat en 2024, mais qu'il n'en avait pas encore pris la décision formelle. Les élections de mi-mandat aux États-Unis auront lieu le 8 novembre prochain. C'est une information de nos confrères de France Info. Cette semaine, Édouard Philippe a été placé sous le statut de témoin assisté par la Cour de justice de la République dans l'enquête sur les responsabilités dans la gestion du Covid-19. Pierre de Cossette, l'ancien Premier ministre, a été interrogé par les juges d'instruction il y a quelques jours.
Dans la plus grande discrétion et avec une semaine d'avance sur la date initiale de convocation révélée à l'époque par le journal Le Monde, Édouard Philippe devait être entendu lundi prochain, mais selon nos informations, la date a été avancée de 6 jours et mardi, cette semaine, l'ex-chef du gouvernement a été interrogé par les 3 magistrats de ce qu'on appelle la commission d'instruction, ce même trio qui a mis en examen il y a un an Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé. Ces juges auraient pu mettre en examen également Édouard Philippe, mais l'ex-premier ministre a visiblement su les convaincre du contraire. Dans une interview au Parisien il y a 2 semaines, il avait dit contester vigoureusement les incriminations qui lui sont reprochées. Il est donc ressorti des murs de la Cour de justice de la République sous le statut de témoin assisté, statut intermédiaire, qui lui permet désormais d'avoir accès au dossier d'instruction. Témoin assisté pour mise en danger de la vie d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre.
L'actualité en France, c'est également cette alerte, ce SOS adressé à Emmanuel Macron par les professionnels des services de pédiatrie. Dans une lettre ouverte, plus de 4000 soignants en pédiatrie dénoncent la saturation des hôpitaux alors que l'épidémie de bronchiolite s'installe partout sur le territoire. La situation n'est plus tenable, soins déprogrammés faute de lits, transferts hors région de tout petit, les services pédiatriques craquent, des enfants sont quotidiennement en danger. Pour en parler, l'un des signataires de la tribune adressée au président de la République, le professeur Olivier Brissot, responsable des unités de réanimation pédiatrique au CHU de Bordeaux. Bonjour Olivier Brissot.
Bonjour Monsieur Barrère.
Quel est le constat dans les hôpitaux et les services de pédiatrie après seulement, le constat que vous faites après seulement 2 semaines d'épidémie hivernale ?
Bon, d'abord, merci de me permettre de parler au nom presque maintenant des 6000 signataires de la tribune. Le constat, il est que notre hôpital va mal, que face à cette épidémie qui arrive, qui était prévue, on ne fait plus face aujourd'hui à l'arrivée des patients et des patients les plus graves à l'hôpital. Et ce qui est aussi ennuyeux, c'est que nous avons des difficultés à prendre en charge les patients chroniques complexes qui, eux, sont suivis de façon habituelle à l'hôpital. Donc c'est un constat alarmant aujourd'hui que nous adressons à nos gouvernants. Et je veux dire avec insistance que, évidemment, il y a des pédiatres, il y a des paramédicaux de pédiatrie, mais il y a aussi des associations de familles, de patients, du personnel technique et administratif qui, aujourd'hui, la sémantique a un peu changé. Ils mettent devant leurs responsabilités les gouvernements successifs, y compris celui d'aujourd'hui, et le président de la République, et ils les nomment responsables de la situation actuelle.
Dans les services de pédiatrie, aux urgences pédiatriques également, ça veut dire quoi, Olivier Brissot? Les enfants attendent sur des brancards, il y a des transferts dans des hôpitaux hors région avec des enfants, des parents désemparés, c'est ça la situation?
Ce que ça signifie concrètement, c'est que l'afflux de patients, c'est-à-dire 20 000 hospitalisations supplémentaires chaque année du fait de cette épidémie de bronchiolite, aujourd'hui ne peut plus être absorbé par notre système de santé de façon globale et particulièrement en pédiatrie. Et donc effectivement, les enfants arrivent à l'hôpital et c'est un jeu de chaises musicales permanent pour pouvoir prendre les enfants les plus graves dans les secteurs de soins dits chauds, hospitaliser les patients complexes qui viennent quand même parce qu'ils sont décompensés par des maladies virales, faire de la pédagogie et de l'éducation pour les familles, pour dire quand est-ce qu'il faut amener son enfant à l'hôpital et quand est-ce qu'il ne faut pas l'amener à l'hôpital. Donc cette offre-là globale est déficiente et c'est pas tout de dire aux parents ne les amenez pas à l'hôpital parce qu'il faut quand même que la plupart du temps ces enfants soient vus. Et cette offre hors hôpital n'est aujourd'hui plus assurée correctement. Donc ça pose un problème très global qui tient pas. Faut pas se cacher derrière la bronchiolite. Enfin, c'est beaucoup plus large que la bronchiolite. Ça touche effectivement les réanimations pédiatriques, voilà, qui sont le cœur de la prise en charge des enfants très 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 graves. Mais le deuxième niveau, c'est l'hôpital pédiatrique global. Et puis le troisième niveau, c'est l'hôpital public, dont le délitement est pas d'aujourd'hui. Voilà.
Olivier Brissot, je vous propose d'écouter Agnès Firmin-Lebaudeau, qui est la ministre en charge des professions de santé. Elle a réagi ce matin à votre tribune publiée dans le journal Le Parisien et signée, vous nous dites, par plus de 6 000 personnes. Agnès Firmin-Lebaudeau sur France Info.
Avec le ministre François Braun, nous écoutons, nous sommes en direct régulièrement avec à la fois les directions d'ARS, les hôpitaux, et nous comptons bien sûr sur la solidarité entre les hôpitaux. Des enfants ont été transférés des hôpitaux parisiens vers les hôpitaux de régions voisines, Reims et Rouen. Nous comptons aussi sur la solidarité avec la médecine de ville, et puis nous travaillons à l'ouverture plus prolongée le soir des maisons médicales de garde pour pouvoir accueillir les enfants qui ne relèveraient pas des urgences. Nous faisons face à une tension de toutes les professions de santé. Pour ouvrir des lits, il faut des personnels derrière les lits. C'est pas parce que vous allez augmenter les salaires que vous allez former les professionnels de santé. C'est un travail de fond qui a été engagé depuis le dernier quinquennat. Mais je le redis, ouvrir des lits, bien sûr, nous avons été capables de le faire pendant la crise sanitaire. Ouvrir des lits, oui, mais avec des personnels. Et les personnels, il faut les trouver. Et pour l'instant, nous n'avons pas les personnels.
Professeur Olivier Brissot, solidarité, mais nous n'avons pas les personnels. Ce n'est pas une déclaration qui vous rassure, j'imagine?
Non, alors... Moi, j'ai écouté notre ministre délégué ce matin hein, dans l'intégralité de son intervention. En fait, ce qui est choquant, c'est que la façon dont elle s'adresse et notre ministre Braun fait la même chose. Hein, la façon dont il s'adresse de façon générale à la population, là en particulier les soignants, c'est choquant d'abord parce que ils ont peut-être l'impression que ce que nous disons n'est pas juste, hein, voilà. La ministre déléguée nous parle de solidarité, mais il faut venir dans les hôpitaux voir à quel point la solidarité est déjà présente dans les hôpitaux. Le déplacement des agents d'un secteur à un autre, le travail avec les hôpitaux de proximité, le travail avec la médecine de ville, tout ça c'est déjà fait. C'est-à-dire que le constat qui est annoncé par les soignants, c'est de dire en fait tout ce que vous nous dites, on le fait déjà. On attend de vous aujourd'hui des décisions fortes, des engagements forts. Je partage, par contre, son opinion quand elle dit « l'argent ne fera pas tout ». Ben, c'est sûr, non, l'argent ne fera pas tout, c'est certain. Mais il y a deux temps aujourd'hui dans les projets. Le temps numéro un, c'est il y a un cap à passer là maintenant et très vite. Donc oui, il faut trouver un moyen pour ouvrir des lits. Oui, il faut armer ces lits avec du personnel paramédical et médical. Donc il faut trouver des moyens pour ça. Alors peut-être que mieux financer les heures supplémentaires, même si ce n'est que reculer le problème parce que ça va fatiguer les agents, mais peut-être que c'est un moyen pour passer un cap, voilà, trouver une motivation financière. Il y a des décisions qui ont été prises, qui sont des décisions iniques, et ça s'est passé dans les mois qui viennent de s'écouler.
Et empêcher la fuite des soignants, j'imagine aussi. Hein.
Oui, il faut non seulement maintenir les soignants qui sont à l'hôpital aujourd'hui, et empêcher ces soignants de partir, et remettre des soignants dans l'hôpital. Je veux quand même dire une chose encore, c'est que...
Juste quelques secondes, hein.
Oui, l'attractivité, elle passe quand même par le fait de l'équité. Donc, voir dans des unités de réanimation certains personnels avoir une prime, par exemple, pour les soins intensifs et pas d'autres, c'est inique. il faut faire attention aussi aux messages qu'on fait passer aux soignants. C'est important.
Merci, professeur Olivier Brissot, patron de la réanimation pédiatrique au CHU de Bordeaux. Merci d'avoir répondu à France Inter. La pénurie dans les stations-service après un pic la semaine dernière, les ruptures de carburant se sont réduites selon le gouvernement. 13% des stations étaient hier en manque de gazole ou d'essence. La France, une nation verte, la première ministre Elisabeth Borne en charge de la planification écologique, a donc dévoilé hier 22 chantiers pour mettre en œuvre cette planification écologique. Des concertations doivent se tenir jusqu'à la fin de l'année autour de la décarbonation des industries jusqu'à la rénovation des logements. Et justement, la justice se lance dans la chasse au gaspillage et à la pollution. Hier à La Rochelle, des responsables des cours d'appel de Bordeaux, Limoges et Poitiers ont signé une charte en faveur du développement durable. Objectif, traquer les sources d'économie. Et ça commence par les bâtiments. Julien Fleury de France Bleu à La Rochelle.
On part de loin car la plupart des tribunaux sont des passoires thermiques. C'est le cas de ceux qui dépendent de la cour d'appel de Poitiers, comme La Rochelle, Saintes et Rochefort. Gwenola Jolicoz est la première présidente de la cour d'appel.
Les tribunaux sont souvent des bâtiments anciens, vétustes, donc on a un problème de consommation électrique, mais on en est conscient. Et on travaille sur ces sujets de plus fort parce qu'on sait qu'évidemment l'hiver qui s'ouvre devant nous va être difficile.
Avec la flambée des factures d'énergie, objectif du moment, retarder au maximum l'allumage du chauffage et ne pas dépasser 19 degrés dans les bureaux et les salles d'audience. Philippe Delarbre, premier président de la cour d'appel de Limoges.
Il y a un élément humain derrière la frilosité. Vous avez des gens qui à 19 ont trop chaud et des gens qui à 25 ressentent le froid. Donc il faut trouver une température commune, 19 degrés paraît raisonnable. Ceux qui ont froid à 19 degrés mettront des cols roulés. Ceux qui ont chaud mettront des chemisettes hawaïennes.
Philippe Delarbre, pionnier de cette démarche écologique dans les palais de justice de notre région. Une politique déployée dans de nombreuses directions, à commencer par les déplacements professionnels.
Essayer de mettre en place des plans de mobilité pour que nos agents puissent covoiturer. La possibilité également d'acquérir des vélos électriques pour pouvoir faire des déplacements professionnels.
Au menu encore, la suppression des bouteilles d'eau en plastique, des dosettes de café ou encore des consignes pour éteindre les ordinateurs le soir.
En rugby et la Coupe du Monde féminine, direction les quarts de finale pour l'équipe de France. Et les Françaises n'ont fait qu'une bouchée ce matin des Fidji. Victoire 44-0, Julien Frenois.
La France a inscrit 7 essais dans une rencontre à sens unique face aux Fidji, notamment portée par 2 essais de la centre Maëlle Philopon, qui prend beaucoup de plaisir dans cette équipe.
On s'est dit qu'il fallait poser le cerveau et maintenant il fallait jouer au rugby. Et à la base, on est toutes des filles qui savent jouer au rugby. Puis on est là, c'est qu'on a quelque chose. Et c'était vraiment le maître mot. Lâcher le cerveau et jouer, quoi. C'est jouer ses duels ou faire la passe, mais vraiment jouer.
Jouer, elles l'ont bien fait, les Françaises, en menant 20-0 à la pause. Les Bleus ont aussi pu compter sur le retour de leur capitaine Gaëlle Hermé, absente depuis le début du mondial. La troisième ligne savoure cette deuxième victoire dans le tournoi.
Plutôt fière parce que on avait hâte de jouer ce match-là. On savait qu'on allait tomber face à une équipe qui était capable de nous produire du jeu à l'instinct. Et aujourd'hui, je pense qu'on a fait preuve vraiment de produire ce jeu qu'on avait envie de produire. On a réussi à attaquer les espaces qu'on voulait attaquer. Aujourd'hui, c'est contrat rempli puisque voilà, on s'était dit qu'il fallait qu'on aille chercher cette victoire et c'est chose faite. Donc très très fier de l'état d'esprit du groupe encore une fois.
La qualification en poche, les Bleus doivent maintenant patienter jusqu'à demain pour connaître l'identité de leur adversaire.
Le choix culturel de ce week-end avec un livre en lice pour le prix Femina étranger et le Médicis étranger. En mémoire de la mémoire, un livre hybride de Maria Stepanova. À la mort de sa tante, l'autrice Maria Stepanova se retrouve à vider un appartement plein de lettres, de photos anciennes et de journaux intimes, les vestiges de plusieurs générations d'une même famille tout au long d'un siècle mouvementé. Ilana Mariusef.
Ce livre, Maria Stepanova assure qu'il s'écrivait en elle depuis l'âge de 10 ans, quand le principal loisir proposé par sa mère, les jours où il n'y avait pas école, était de feuilleter les albums photos de la famille, remplis de visages inconnus. Maria Stepanova.
Ce qui m'intéressait, c'était dans un monde où on ne fait attention qu'à des gens qui ont réussi, qu'à des gens célèbres, brillants, de donner envie d'apprendre quelque chose de ces gens ordinaires.
Dans leur pays, la Russie, plus tard l'Union soviétique, ces gens avaient sans doute compris qu'il valait mieux ne pas trop se faire remarquer. Comment les raconter? Plutôt que de faire semblant de tout savoir, de tout reconstituer, Maria Stepanova a conçu son livre comme un vaste collage, parce que la mémoire est imparfaite et se joue de nous.
La mémoire, pour moi, c'est un tissu qui est mangé au mythe et est constitué principalement de trous, plus que de faits et de souvenirs. Il y en a quelques-uns, bien sûr, mais il y a aussi des vides absolument énormes. Je pense qu'il faut se résigner à ça.
Si cet édifice fragile que Maria Stepanova essaie de faire tenir, en mémoire de toutes ces vies heurtées par l'histoire.
En mémoire de la mémoire est publié chez Stock. Le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, Euromaster est partout au service de votre sécurité.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Alors, une après-midi calme et largement ensoleillée.
Oui, et ça quasiment partout. On a juste quelques petites nuances au nord de la Loire, par exemple, avec un ciel un petit peu plus nuageux. Ciel qui va même s'assombrir en fin de journée sur la Bretagne, annonçant quelques averses dans la soirée. Autre bémol sur le flanc est avec encore quelques averses. Et puis, on a du vent, un vent qui se renforce cet après-midi sur les Pyrénées, avec des rafales jusqu'à 80 km à l'heure, 70 km à l'heure sur les Alpes du Sud, 50 sur la pointe bretonne, partout ailleurs. Vous l'avez compris, c'est du soleil.
Et côté température, c'est toujours beaucoup trop doux pour la saison.
Oui, encore une moyenne quasi estivale. Hein, 18 à 28 degrés du nord au sud, 18 à Cherbourg, 28 à Ajaccio, en passant par 21 degrés à Paris et Lyon, 25 pour Bordeaux et Marseille, des valeurs 4 à 7 degrés au-dessus des normales de saison. Une douceur exceptionnelle qui devrait durer au moins jusqu'à la fin du mois.
La météo, Céline Dacosta, merci.